Bonjour, Marco compte à rebours. Compte à rebours, une émission de contes, des histoires, oui, des histoires de toutes sortes. On a voyagé de par tous les pays, mais on n'est pas allé beaucoup en Amérique, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est allé en Amérique avec les Indiens d'Amérique et leurs histoires, leurs traditions orales. Mais aujourd'hui, ce sont, on va dire, des courtes, oui. Même, je dirais, des ultra-courtes, des histoires. C'est pas compliqué. Là-bas, en Amérique, vous savez, vous avez Beverly Hills. Enfin, il y a des collines partout. Hein, et tout se termine par Hills. Et là, on va partir justement sur la colline. Sur la colline de Spoon River, dans l'Illinois. Vous connaissez pas, non? Il y a des stèles dressées. Et oui, c'est un cimetière à ciel ouvert avec des, et puis immense avec des arbres, des buttes, des stèles, des épitaphes, des noms marqués, bien sûr. Et de tout ça, un homme a fait, comment dire, un livre, oui, un livre qui donne ses épitaphes comme un résumé d'histoire de vie sorti de son imagination sensible. Et c'est un poète américain du début du siècle qui s'appelle Edgar Lee Masters. Ses premiers écrits, pièces de théâtre et poèmes, influencés par Edgar Poe, Walt Whitman, Shelley et Swinburne, parurent dès 1898. Suite à la lecture des épigrammes de l'anthologie grecque de 1909, Masters eut l'idée de composer un ensemble de plus de 200 monologues constituant les prétendus épitaphes des habitants de Spoon River. Village prétendu lui aussi puisqu'il est issu de la fusion imaginaire de Lewistown et de Petersburg, bourgade de l'Illinois. L'anthologie de Spoon River brille par son surprenant mélange d'ironie, d'humanité, avec des confessions posthumes qui mettent en lumière les contradictions entre la moralité affichée de leurs vivants par les villageois décédés et leurs véritables aspirations. L'amertume et la frustration, une violence vécue ou rentrée, le regret du non-vécu et les espoirs déçus donnent à cet ouvrage une tonalité unique qui en font un des chefs-d'œuvre de la littérature des États-Unis, ni plus ni moins. Hein. Et il faut dire, c'est vrai, que ces épitaphes donc qui nous donnent à voir la vie à mesurer bien à l'aune de la mort, eh bien ça a sacrément de la force et ça éclaire aussi et ça nous rend sûrement plus vivants. En tout cas, c'est ce que j'espère. Alors, eh bien, partons tout de suite sur la colline de Spoon River. Où sont Elmer, Herman, Berthe, Tom et Charlie? Le veule, le costaud, le bouffon, le pochard, le bagarreur. Ils reposent tous sur la colline, terrassés par la fièvre, brûlés au fond d'une mine, victimes d'une rixe, morts en prison, ou encore tombé d'un pont en s'éreintant pour femmes et enfants. Tous, oui, tous reposent sur la colline. Où sont Ella, Kate, Mag, Lizzie et Edith? La douce, la discrète, la grande gueule, la pembèche, la vénarde. Elles reposent toutes sur la colline. Honteusement mortes en couche, consumé par un amour déçu, victime d'une brute dans un bordel, brisé dans sa quête d'amour éperdu, ou conduite à sa dernière demeure par Ella qui a été Mag après un exil à Londres et à Paris. Toutes, oui, toutes reposent sur la colline. Où sont oncle Isaac et tante Émilie, le vieux Tony Kincaid et Sévigne Houghton, et le major Walker, porte-parole des héros de la Révolution? Ils reposent tous sur la colline. On leur a ramené des fils morts à la guerre, des filles broyées par la vie, et des enfants orphelins en pleurs. Tous, oui tous, reposent sur la colline. Où est le vieux Jones, le violoneux, après 90 années passées à jouer avec la vie, bravant la pluie glacée, poitrine nue, buvant, se bagarrant, indifférent au mariage, à la paternité, à l'or, à l'amour, au paradis? Écoutez-le ressasser ses souvenirs de poissons grillés, de courses de chevaux disputées jadis à Clarice Grove, ou les discours d'Abe Lincoln, autrefois à Springfield. Voici les mots gravés sur ma tombe. Cassius Ruffer. Sa vie a été douce et sa constitution digne de voir la nature se lever et dire au monde entier « Voilà l'étoffe d'un homme ». Ceux qui m'ont connu sourient en lisant cette rhétorique creuse. Voici mon épitaphe telle qu'elle aurait dû être. La vie ne l'a pas épargné et sa constitution l'a condamné à batailler toute sa vie avant d'avoir sa peau. Vivant, j'étais harcelé par les langues de vipère et voilà que mort, je dois subir une épitaphe gravée par un abruti. Chase Henry. Vivant, j'étais le pochard du village. À ma mort, le prêtre a refusé de m'ensevelir en terre consacrée. Une chance, finalement. Car les protestants ont acheté cette parcelle et y ont enterré mon corps, tout près de la tombe de Nicolas le banquier et de sa femme Priscilla. Âme sage et pieuse, souvenez-vous, les caprices de l'existence peuvent honorer dans la mort ceux qui ont vécu dans la honte. Le juge Somers. Comment expliquez-vous que moi, le plus érudit des procureurs qui connaissait Blackstone et Coke quasiment par cœur, auteur du plus grand réquisitoire jamais prononcé dans un tribunal, forçant l'admiration du juge Breeze, comment expliquez-vous que je me retrouve dans cette tombe anonyme et oubliée de tous, alors que Chase Henry, le pochard du village, dispose d'une plaque de marbre surmontée d'une urne où la nature facétieuse a semé une graine aujourd'hui en fleurs? Benjamin Pantier. Si gise Benjamin Pantier, notaire, et son chien, Nick, compagnon fidèle, ami et réconfort. Au bout du morne chemin, amis, enfants, hommes et femmes, passant de vie à trépas, m'ont quitté les uns après les autres. J'ai fini seul avec Nick pour unique acolyte, compagnon de chambre et complice de mes beuveries. Au matin de ma vie, j'ai connu l'ambition et entrevu la gloire. Puis, celle qui me survit a pris mon âme au piège et m'a saigné à mort. Moi, jadis, si résolu, j'ai passé le restant de mes jours brisés et résignés à l'arrière de mon étude minable avec Nick. Son museau osseux reste niché sous ma mâchoire. Le silence étouffe notre histoire. Passe ton chemin, monde de fous. Madame Benjamin Pantier. Oui, je sais. Il a clamé partout qu'en prenant son âme au piège, je l'ai saigné à mort. tous les hommes l'aimaient, la plupart des femmes le plaignaient. Mais imaginez un peu, vous êtes une grande dame au goût délicat, que l'odeur de whisky et d'oignon répugne. La mélodie de l'ode de Wordsworth berce vos pensées tandis qu'il passe ses journées à traîner et casser les oreilles de tout le monde avec sa litanie. Oh ! Et de quoi donc l'esprit des mortels devrait-il être fier, hein ? Imaginez encore, vous êtes une femme séduisante et le seul homme avec qui vous êtes en droit d'avoir des relations conjugales est celui dont la vue vous donne aussitôt la nausée. Voilà pourquoi je l'ai exilé avec son chien dans un réduit miteux à l'arrière de son étude. Reuben Pantier, le fils. Eh bien, Emily Sparks, vos prières n'auront pas été perdues, ni votre amour tout à fait vain. Quoi que j'ai été dans la vie, je le dois à votre confiance indéfectible, à votre amour qui m'a toujours auréolé de bonté. Chère Emily Sparks, laissez-moi vous conter le fin mot de l'histoire. Passons sur l'influence de mes parents. La fille de la modiste m'ayant créé des ennuis, je me suis aventuré dans le monde où j'ai succombé à toutes les tentations. Le vin, les femmes, le plaisir. Une nuit, dans une chambre, rue de Rivoli, je buvais du vin en compagnie d'une cocotte aux yeux noirs, quand les miens se sont remplis de larmes. Elle les a prises pour des larmes d'amour et a souri à la pensée de son pouvoir sur moi. Or, mon âme était à mille lieues de là, au temps où j'étais encore votre élève à Spoon River. Et alors même que vous ne pouviez plus m'aimer, ni prier pour moi, ni m'écrire, le silence éternel de votre absence a parlé. La cocotte aux yeux noirs a cru à tort que mes larmes et mes baisers lui étaient destinés. Toujours est-il que ma vision en a été à jamais bouleversée, chère Emily Sparks. Emily Sparks. Où est mon garçon, mon tout petit? Dans quelle partie du monde? De tous les élèves de l'école, mon préféré. Moi, l'institutrice, la vieille fille au cœur vierge, qui les considérait tous comme mes enfants. Avais-je raison de voir en lui un esprit vif, ardent, assoiffé d'idéal? Oh, mon enfant, mon garçon, pour qui j'ai tant prié au cours de ces nombreuses nuits de veille. Te rappelles-tu ma lettre sur l'amour merveilleux du Christ? Mais que tu aies accepté ou non cet amour, mon garçon, et où que tu sois, travaille au salut de ton âme, pour que la part d'argile et d'impureté qu'il y a en toi finisse par s'embraser et que ce feu devienne lumière, pure lumière. Trainor, le pharmacien. Seul le chimiste est en mesure de dire, et encore pas toujours, ce que donnera la combinaison de fluide ou de solide. Et qui peut savoir comment hommes et femmes interagiront et quels enfants en résulteront? Prenez Benjamin Pantier et sa femme, par exemple. Bon, par nature, ils étaient un enfer l'un pour l'autre. Lui était l'oxygène, elle l'hydrogène, et leur fils un feu dévastateur. Moi, Trainor, pharmacien, expert en mélanges chimiques, tué au cours d'une expérience de ma vie, je n'ai jamais été marié. Minerva Jones. Je suis Minerva, la poétesse du village, sifflée, raillée par les brutes épaisses des rues pour mon corps lourd, mon œil torve, ma démarche chaloupée. Le ruée en redoublé quand, où elle dit, le gros dur, m'a prise à l'issue d'une traque impitoyable. Il m'a laissé pour morte aux mains du docteur Meyers. L'engourdissement a gagné tout mon être, depuis les pieds, comme lorsqu'on s'enfonce dans une eau glacée. Y aura-t-il une bonne âme pour aller au journal du village, faire éditer un recueil de mes poèmes? J'avais une telle soif d'amour, un tel appétit de vivre. Jones ou l'indignation. Vous refusiez d'admettre que j'étais de bonne souche galloise, n'est-ce pas? D'un sang plus pur que toute cette vermine à la peau blanche, d'une lignée plus noble que ces Spoon riverains venus de Nouvelle-Angleterre ou de Virginie. Vous refusiez de croire que j'avais fréquenté l'école et lu des livres. Non, derrière mes cheveux et ma barbe en broussailles sous mes haillons, vous ne voyez qu'une épave. Quand le sort s'acharne sur un homme sans répit, il arrive que sa vie se transforme en tumeur. Une tumeur qui enfle, violacée, comme ces excroissances sur les chaumes de maïs. Moi, le charpentier, enlisé dans ce marais de l'existence que j'avais pris pour une promenade, avec ma souillonne d'épouse et ma fille, la pauvre Minerva que vous avez brisée, j'ai rampé et encore rampé tout au long de ma vie, comme un escargot. Vous n'entendez plus, au petit matin, résonner le bruit de mes pas sur le pavé désert menant à l'épicerie, où j'achetais ma farine de maïs et un sou de lard.
In the deep rolling hills of Virginia, there's a place I love so well, where I spend many days of my childhood, in the cabin where we loved to dwell.
Well dit, le gros dur. Quand je me suis repenti et rangé, on m'a proposé un boulot à la conserverie. Chaque matin, dans la cour, je devais remplir d'essence le réservoir qui alimentait les lampes à souder sous les hangars. Pour ça, il fallait que j'escalade une échelle branlante avec des seaux pleins à ras-bord. Un matin, je versais l'essence. Quand j'ai senti l'air se figer et se soulever, j'ai été projeté par le souffle de l'explosion pour finir par terre, les jambes brisées, deux œufs frits à la place des yeux. Une lampe à souder était restée allumée et la flamme a été aspirée par le réservoir. D'après le juge itinérant, le coupable était forcément l'un de mes collègues. Et le fils du vieux Rod ne me devait donc aucun dédommagement. Coincé au banc des témoins, aussi aveugle que Jack le violoneux, je me tuais à répéter, mais ce type, je ne l'avais jamais vu. Le docteur Meyers. Hormis le docteur Hill, personne n'a fait plus que moi pour les gens de cette ville. J'ai vu défiler tous les chétifs, les boiteux, les imprudents, les sans-le-sou. J'étais le docteur Meyers au grand cœur, en bonne santé, heureux, relativement aisé. J'avais une charmante compagne, des enfants accomplis, tous mariés, et doté d'une bonne situation. Et puis une nuit, Minerva, la poétesse, a échoué chez moi en pleurs. J'ai essayé de la délivrer. Elle a succombé. J'ai été incriminé. Les journaux m'ont honni. Ma femme est morte, le cœur brisé. Et une pneumonie m'a achevé. Knut Hoheimer, tout premier cueilli à la bataille de Missionary Ridge. J'ai compris. Au moment où la balle m'a transpercé le cœur, que j'aurais mieux fait de rester au village et purger ma peine de prison pour le vol des cochons de Curl Trenary, au lieu de m'enfuir et de m'engager dans l'armée. Car il vaut mille fois mieux finir à la prison du comté qu'ici, sous cette statue de marbre à deux ailes et cette pierre de granit sur laquelle on peut lire « Pro Patria ». Ça veut dire quoi au juste ? Lydia Puckett. Knut Hoheimer s'est précipité à la guerre la veille du jour où Curl Trenary a porté plainte auprès du juge Arnett pour le vol de ses cochons. Mais ce n'est pas la vraie raison qui l'a poussé à devenir soldat. Il m'a surprise avec Lucius Atherton. Nous nous sommes disputés, je l'ai envoyé au diable. Alors, il a volé les cochons et il est parti à la guerre. Derrière chaque soldat se cache une femme.
The rich man lived in luxury, surrounded by his door. He'd always had the very best that money could afford. He left this world not caring about his rest and play. He laid his eyes toward heaven, but it was too late.
Harry Drummer. Les garçons et les filles vont-ils toujours boire du cidre chez Seaver après l'école, fin septembre, ou ramasser des noisettes dans les fourrés de la ferme d'Aaron Arfield aux premières gelées? J'ai tellement joué sur la route et les collines, riant aux éclats avec les garçons et les filles, dans la fraîcheur du soleil couchant. Nous nous arrêtions pour secouer le noyer qui se détachait nu dans l'ouest embrasé. Désormais, l'odeur de la fumée d'automne, le bruit des glands qui tombent et les échos des veillées me parviennent comme des rêves de vie. Ils flottent au-dessus de moi et je m'interroge. Où sont mes joyeux camarades? Combien gisent près de moi? Combien dans les vieux vergers qui longent le chemin menant chez Seaver? Combien dans les bois qui dominent l'eau dormante? Conrad Seaver. Non, pas dans ce jardin à l'abandon où les corps nourrissent une herbe qui n'alimente aucun troupeau et des arbres éternellement verts mais stériles. Non, pas le long des allées ombragées où s'élèvent de vains soupirs et les rêves encore plus vains d'une communion avec l'âme des disparus. Mais ici, sous ce pommier que j'ai aimé, soigné et taillé de mes mains noueuses pendant de si longues années. Ici, sous les racines de ce pommier rouge, pour participer à l'évolution chimique au cycle de la vie, devenir terreau, chair de l'arbre, et donner des pommes encore plus rouges. Épitaphe vivante.
Now a little drop of water is all he'll ever need. Now a little drop of water is all he'll ever need.
Compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. Et donc, c'était Edgar Lee Master que vous pouvez acheter aux éditions Alia. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres épitaphes sur cette colline. Donc, on y reviendra. C'était Marco. Compte à rebours. À la semaine prochaine.